1 Samuel 16, pour terminer donc notre histoire de Samuel. On arrive au bout, plus ou moins, de sa carrière. Il reste encore un autre passage, mais je pense qu'on pourra s'arrêter là. Peut-être on le reprendra si l'année prochaine on fait le personnage de David, ce qui est probable. Voilà, donc 1 Samuel 16. Le Seigneur dit à Samuel, « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül ?» Et je dois dire que ce matin, j'ai préparé cette semaine, cette phrase-là m'a résonné dans la tête. Et je suis désolée, ce matin, vous allez peut-être sentir que le message s'adresse à vous, mais moi j'ai senti la même chose. Donc je crois que je me prêche autant à moi-même qu'à vous, parce que c'était fort, et vous allez voir pourquoi. « Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül ?» Moi, je l'ai rejeté. Il ne sera plus roi sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Jessé le Bethléemite, car j'ai vu mon roi parmi ses fils. Samuel dit, mais comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Ça nous donne déjà une petite idée de Saül. Hein. Il devenait vraiment vindicatif, le coco, là. Le Seigneur dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice au Seigneur, ce qui était courant, hein. Le prophète, souvent, allait offrir des sacrifices à un endroit ou à l'autre du pays, pas de souci. Tu inviteras Jessé au sacrifice. Je te ferai savoir moi-même ce que tu dois faire et tu conféreras pour moi l'onction à qui je te dirai. Samuel fit ce que le Seigneur avait dit. Il se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant à sa rencontre et lui dirent « Bienvenue ». Il répondit « Bonjour, je viens pour offrir un sacrifice au Seigneur ». Consacrez-vous, c'est-à-dire purifiez-vous, mettez-vous à part, et venez avec moi au sacrifice. Il consacra aussi Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. C'est la première partie. Jusqu'à quand pleureras-tu sur Saül? Alors, quand on avait fini le chapitre 15, on avait lu Samuel menait deuil sur Saül. Samuel menait deuil sur Saül. Pour dire à quel point il aimait cet homme, il avait apprécié son humilité au début de sa carrière, ses dons. Il s'était attaché à ce roi qu'il avait coaché, en fait, depuis des années. Et on finit par aimer les gens qu'on coach. Hein. Et c'est normal que le voir désobéir comme ça de façon régulière à Dieu, c'était une douleur pour Samuel. Et de la même façon que c'est une douleur pour Dieu. Il ne faut pas croire que Dieu se moque de nos réactions. Il est ulcéré, il souffre quand il nous voit désobéir. Jusqu'à quand pleuras-tu sur Saül? Alors, ce verset m'a plu d'abord parce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de dureté charnelle, humaine, dans les paroles de Samuel. Quand il a dû transmettre « Dieu t'a rejeté », ce n'était pas « Dieu t'a rejeté ». C'était vraiment une souffrance. Il n'y avait pas de dureté. Il a souffert depuis la première désobéissance, il a tout fait pour le ramener à l'obéissance, et il lui a posé des questions pour le faire réfléchir, entre parenthèses, on avait dit c'est important, hein, avec les enfants aussi, au lieu de condamner nos enfants, posons des questions avant. Parce que parfois, honnêtement, parfois les enfants ont de bonnes raisons de faire ce qu'ils ont fait. Simplement, ils n'ont pas vu le problème comme il fallait. Mais c'est important de leur poser des questions, avant de leur sauter dessus à pieds joints, hein. Moi, j'étais un petit peu de ce genre, et je sais que c'est on fait des bêtises parfois, hein, quand on va tout de suite au but. Oh, t'as fait ça mal, pan pan. Quelquefois, ça vaut le coup de poser des questions, hein, parce qu'on comprend mieux leur fonctionnement. Ils n'ont pas tout à fait le même fonctionnement que nous. Quelquefois, ils fonctionnent mieux d'ailleurs. Et donc, attention aux condamnations trop rapides. Il a fait réfléchir Saül. Il lui a rappelé qui il était. Il lui a rappelé qui était Dieu. Qui il était face à Dieu, quel était son appel, quelle était sa mission auprès du peuple. On a vu qu'il avait crié toute la nuit à Dieu. Ça a dû être dur quand même, hein. On sent qu'il souffrait. Il a même tué lui-même Agag pour que les ordres de Dieu soient respectés. Il savait qu'il ne pouvait plus rien faire, donc il menait le deuil. Voilà, il était arrivé au bout du rouleau, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et maintenant je ne peux plus rien faire. Et il y avait cette souffrance. Alors c'est important parce qu'il y a des situations dans nos vies où on a fait tout ce qu'on peut. Et je pense que vous pensez tous à certaines situations très différentes. Alors je vais citer plein de choses, hein, mais il y en a certainement d'autres que vous pouvez vous trouver dans votre cœur. On a pardonné, on demande pardon, on reconnaît ses fautes, mais rien n'y fait. Alors ça peut être vrai à l'école, Ça peut être vrai au travail, ça peut être vrai avec des amis, parfois même dans des familles. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On pleure. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a tout fait. On pleure, on crie à Dieu la nuit, hein, on fait des insomnies et on crie à Dieu, comme Samuel. Alors, quelquefois, c'est parce que les gens ne nous aiment pas. On ne peut pas obliger les gens à nous aimer. Souvent, s'ils ne nous aiment pas, c'est aussi parce qu'ils imaginent des choses et ils nous voient avec des yeux différents de ce qu'on est. Ça, on n'y peut pas grand-chose. Ou ils nous associent à des gens qui leur ont fait du mal dans le passé. Et ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Particulièrement pour les profs, les pasteurs, les gens en responsabilité, les chefs de service au boulot. Hein. Ils nous associent à des gens qui leur ont fait du mal dans le passé, et soit parce qu'on leur ressemble, soit parce qu'on a le même rôle. Donc je disais prof, chef, père ou mère. Hein. Par exemple, quelqu'un qui a vécu des choses très dures avec son père va avoir tendance à très mal ressentir et à haïr même le chef, le prof, le médecin, toute personne en autorité. Voilà, donc il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut faire tout ce qu'on peut. On peut demander pardon, il n'y a rien à faire. Et alors, on pleure, comme Samuel. Et Dieu est obligé, à un moment de notre vie, de nous dire, jusqu'à quand pleureras-tu sur ce problème? Alors, je pense que nous, les femmes, on est peut-être plus sensibles à ça. Je pense que vous allez peut-être plus facilement vous reconnaître que les hommes. Mais les hommes, ils pleurent peut-être pas de façon visible, mais ils ont d'autres façons de réagir. Ça dépend desquelles. Mais jusqu'à quand pleureras-tu sur ce problème? Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans nos vies où Dieu nous dit ce matin, jusqu'à quand tu vas pleurer sur ce problème? Laisse-le entre mes mains, puis avance. Que ce problème ne stoppe pas ta vie scolaire. J'ai connu des gens qui ont complètement raté leurs études pour un problème similaire. Une injustice sur laquelle ils n'ont jamais pu passer. Et qui encore les fait souffrir alors qu'ils ont 50, 60 ans. C'est terrible. Jusqu'à quand vas-tu pleurer? Scolaire, affective, professionnelle, la vie d'église, la vie de famille. Et Dieu vous dit, mais tu as fait ce que tu devais faire. Tu m'as obéi, tu as demandé pardon, tu ne peux plus rien faire de plus. Alors bien sûr, il faut s'assurer qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Et Dieu nous dit, avance, regarde. Va devant, regarde devant, regarde pas derrière. Ça, c'est difficile. Quand on a vécu des choses dures, regarder devant et pas regarder derrière, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce n'est pas facile. Et si on ne veut pas ouvertement regarder de l'autre côté, on regarde dans le rétro. Ah, qui est-ce qui ne regarde pas dans le rétro? J'espère qu'il y a des gens tellement sanctifiés au milieu de nous qui ne regardent jamais dans le rétro. Mais dans le rétro de nos vies, hein, bien sûr, faites-le pour votre voiture. Mais combien de fois on fait ça? Et le Seigneur nous dit, regarde pas par derrière, il y a encore pour ta scolarité, pour ta profession, pour tes amitiés, pour ta famille, il y a encore un avenir et une espérance. Et si parfois vous avez l'impression que ça pèse tellement que ça bloque tout, le Seigneur dit non, et il y a encore pour ta scolarité, pour ta profession, pour tes amitiés, pour ta famille, il y a encore un avenir et une espérance. Parce que plus on va regarder au problème, ça on l'a vu encore au TQP cette semaine, plus on en fait une fixation, c'est ça, on fixe du regard le problème. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on fixe quelque chose? On ne peut plus avancer. Hein. Moi j'ai déjà essayé, on fait vraiment des bêtises, on peut se casser la figure si on garde les yeux fixés sur quelque chose tout en marchant. Et alors on va s'immobiliser, on va plus progresser et on va pire négliger tous les autres aspects de notre vie. Et il y a des gens comme ça qui sont bloqués par un problème sur lequel ils pleurent depuis des années et du coup ils vont négliger tout un tas d'autres choses dans la vie. Alors ça peut être les amitiés, ça peut être la vie d'église, ça peut être la vie sociale, ça peut être plein de choses différentes, mais ils vont négliger parce qu'il y a un problème sur lequel ils continuent à pleurer. Donc d'abord, il faut s'assurer d'avoir fait comme Samuel, c'est-à-dire tout ce qu'on pouvait, particulièrement au niveau du pardon. Et confions les choses au Seigneur et allons de l'avant. C'est pas facile, hein? c'est pas facile. Mais c'est la première chose, à s'assurer qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Et je pense que Samuel, d'accord, il a pleuré, mais s'est pas contenté de pleurer. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Et c'est important de pouvoir dire, Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je peux pas faire plus. S'assurer de ça, c'est le numéro un. Et après, vraiment, confier les choses entre les mains de Dieu. Confier les choses entre les mains de Dieu. Et ça, c'est pas facile. De pouvoir dire, Seigneur, je dépose. D'autant plus que parfois, les gens en question, qui nous ont fait du mal, et c'est rare, mais ça arrive que ce soit volontaire, avec l'intention de nous détruire, ça arrive, hélas. Il y a des gens qui ont besoin de détruire le bonheur des autres pour vivre. Il n'y en a pas beaucoup, heureusement. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand on tombe sur ce genre de numéro, c'est pas simple, hein. Et ça arrive malheureusement. Des gens qui ont besoin de détruire le bonheur des autres pour se sentir vivant. Et quand on a affaire à des gens comme ça, heureusement c'est très rare, hein, heureusement, mais on leur donne un sérieux coup de main en nous attardant sur les problèmes qu'ils ont créés. Alors, maintenant, même si ce n'est pas volontaire, c'est vrai aussi, plus on va s'attarder sur les problèmes, plus finalement, on aide le méchant à nous faire du mal. C'est clair. Non seulement il nous a fait du mal à un moment donné, mais je vais revivre cette douleur tout le reste de ma vie. Je vais la tricoter pour le reste de ma vie. Est-ce que c'est malin? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je dis souvent aux enfants en cinquième quand ils me disent « Mais madame, c'est trop facile de pardonner. » C'est trop facile, hein, comme ça, qu'on donne carte blanche aux gens. Je dis non. Non, parce que finalement, les gens, ils t'ont fait du mal. J'ai beaucoup de cas comme ça avec mes élèves dans les cas de famille recomposée. Ces gens-là t'ont fait du mal, mais en plus, tu vas ruminer ce mal pour le reste de ta vie. Donc tu les aides à te faire du mal. Donc on leur donne un sérieux coup de main. Et un moment de notre vie qui a été gâché va devenir une vie entière gâchée. C'est quand même bête. Alors arrêtons de pleurer sur Saül. Si vous avez un Saül dans votre vie, ou plusieurs, hein, plus on a vécu longtemps, plus on a rencontré comme ça des déceptions, des difficultés, où on a fait tout ce qu'on a pu, ça n'a servi à rien. Arrêtons de pleurer sur nos Saüls. Arrêtons. Dieu a pour nous un avenir et une espérance. Heureusement. Dieu a pour nous un avenir et une espérance, des plans de bonheur et non de malheur. Et peut-être que là où nous, on a échoué, peut-être, même sûrement, lui, il va trouver des solutions. Alors bon, il n'a pas réinstauré Saül, mais il avait une autre solution. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut jeter ses enfants ou son mari ou ses amis pour en trouver d'autres. Ce n'est pas le but du message. Ce serait trop simple, hein. Mais Dieu va trouver des solutions. Là, dans le cas de Saül, il a choisi un autre roi, mais il fait pas comme ça tout le temps, hein. Heureusement. Dieu a pour nous un avenir, une espérance, des plans de bonheur et non de malheur. Donc ce qu'il nous demande, c'est d'arrêter de pleurer. Et moi, j'ai bien aimé la façon dont le Seigneur le dit. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il ne lui dit pas, ah oui, ça c'est un truc que je déteste. J'espère que vous ne le faites pas. C'est impardonnable. Vous donnez une fessée à un enfant et vous lui ordonnez d'arrêter de pleurer. Non mais franchement, je ne peux pas. Non, vraiment, quand j'entends ça dans les magasins ou autre, je dis mais à quoi ils pensent? Si je les tape, ils vont crier. Et si je leur dis ne criez pas, ils vont me dire... Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, surtout, faites pas ça. Faites pas ça. C'est horrible, ça. Bon, c'est un aparté. Le Seigneur dit à Samuel, jusqu'à quand pleuras-tu sur Saül? Et moi, j'imagine le Seigneur, il aurait pu le dire autrement. Arrête de pleurer sur Saül. Mais non, le Seigneur, il n'est pas comme ça. Il lui dit, dis donc mon grand, tu vas pleurer longtemps comme ça? Ça va durer longtemps ton truc là? Voilà, je familiarise, mais voyez, l'Esprit de Dieu n'est pas accusateur. Il n'est pas là à vous dire, mais ça fait assez longtemps que tu pleures sur ce problème. Tu commences à me casser les pieds là, sérieusement. Tu me remets ça dans toutes tes prières, gna 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 gna. Mais non, il n'est pas comme ça. Mais quand même, il voudrait bien qu'on arrête. Alors il dit... Jusqu'à quand tu vas pleurer comme ça? Tu vas continuer comme ça toute ta vie? T'as vraiment envie? Non seulement ça t'a gâché ta vie là, mais tu veux la gâcher là, 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 jusqu'au bout comme ça? Jusqu'à quand tu vas pleurer là-dessus? Hein? J'aime bien cet amour de Dieu qui pose des questions. Et je vous l'avais déjà remarqué dans la Bible, hein, depuis la Genèse, c'est comme ça. Il pose des questions. Il ne nous retombe pas sur les reins. Là. Ah, ça, ça fait du bien. Donc, il vous en veut pas et il ne m'en veut pas chaque fois qu'on pleure sur notre Saül. J'espère que vous êtes convaincus. Il ne nous en veut pas. Et il nous dit simplement, jusqu'à quand tu vas pleurer là-dessus? Jusqu'à quand tu vas garder cette douleur intérieure? Et vous savez, pour avoir prié avec beaucoup de gens depuis des années, j'ai été surprise de voir comment on peut garder une douleur intérieure et personne ne le voit. Et tout le monde pense que ça va bien et que c'est un problème résolu depuis longtemps. Et je me souviens avoir prié avec une jeune femme absolument géniale qui était encore dans la souffrance simplement d'une fiançaille brisée. Elle était mariée, elle avait des enfants. Tout allait bien, il n'y avait pas de souci. Elle pleurait encore sur Saül. Attention, le Seigneur ne veut pas ça pour nous, il veut le meilleur pour nous, il ne veut pas ça. Alors, Samuel avait beau être un serviteur de Dieu fidèle et obéissant, il pleure. Ça fait du bien quand même, un grand Samuel qui pleure sur son Saül. Donc, ça ne nous donne pas raison pour autant, mais au moins il était humain et ça avait beau être un grand prophète de l'Éternel. Il était humain, ça, ça fait du bien. Ça me fait penser à un pasteur que j'ai traduit qui est décédé maintenant, un pasteur indien absolument formidable. Et j'aimais pas trop parce que parfois il était très dur dans ses paroles quand il prêchait. Alors quand je le traduisais, j'adoucissais, j'arrondissais un peu les angles parce que je voulais pas que les gens quand même le voient avec un œil très négatif. Mais il y a des moments, bon parfois il s'en rendait compte, puis c'est comme ça. Même s'il comprenait pas le français, il sentait que j'étais pas allée assez fort. Mais je me souviens d'une fois où il a été extrêmement dur. Et là, je ne pouvais vraiment pas arrondir les angles. J'étais là, oh purée. Et à côté de ça, j'ai vu les larmes qui coulaient. Et j'ai compris. Parfois, Dieu a besoin de nous dire des choses un peu dures. Mais il le dit avec des larmes. Et c'est là aussi que j'ai compris la souffrance de Dieu par rapport à nos désobéissances. Cet homme de Dieu était capable de dire des choses extrêmement dures, mais avec les larmes qui coulaient. Et ce n'était pas reçu de la même façon par l'auditoire, je peux vous assurer. Et par moi aussi. Donc voilà, et au passage, je voudrais attention, attention aux prophètes, aux gens qui prophétisent, qui parlent de la part de Dieu avec dureté et sans compassion. Hein? On nous a parlé d'exemples comme ça il n'y a pas très longtemps. Attention, c'est très mauvais signe. C'est très mauvais signe. Je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas les juger, mais soyons prudents quand on a affaire à un prophète qui parle sans aucune compassion et avec beaucoup de dureté. Alors parfois, on peut avoir des paroles un peu raides, ok, mais voyez ce que je veux dire, vraiment, dur et sans compassion. Je serais très prudent par rapport à des gens comme ça. Je serais très méfiante pour tout vous dire. Je ne veux pas aller plus loin parce qu'on n'est pas dans le cœur des gens, mais attention, attention. Alors Dieu ne veut pas que Samuel reste sur le passé. Il souhaite un nouveau commencement pour la monarchie, parce que Dieu, il pense au présent et à l'avenir. Hein. Samuel, lui, reste triste. Alors, vous savez ce qu'il peut se dire? Mais qu'est-ce que va devenir Saül? Et le peuple va devoir vivre avec un roi rejeté. Ça va être terrible. Et si les ennemis du peuple commencent à se rendre compte de quelque chose, est-ce qu'ils vont en profiter pour multiplier leurs attaques? Ce qui a été le cas, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu m'écouter quand j'ai dit de ne pas élire un roi humain, de ne pas avoir un roi humain? Alors Dieu, lui, il ne regarde pas à tout ça. Maintenant, on est dans le présent. Dieu regarde au présent et à l'avenir. Et parfois, nous, on a du mal à nous détacher d'un passé douloureux. Et c'est pour ça que ce verset, je l'ai reçu souvent dans ma vie, et je pense que vous l'avez aussi reçu, Ésaïe 43, 18, « Ne vous rappelez pas le passé. » Ne considérez plus ce qui est ancien. Pas facile, hein? Je fais du nouveau. Dès maintenant, ça germe. Est-ce que vous le savez pas? Ne le savez-vous pas? Pas facile, hein? Ecclésiaste 3, 4. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Oui, il y a un temps pour pleurer, pour se lamenter. Et les larmes, je le dis toujours, les larmes sont thérapeutiques. Pleurer, oui. Oui. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants restent dans les larmes. voyez la différence. On peut pleurer sur certaines choses, mais on ne veut pas rester dans les larmes. Il faut vivre un temps de deuil, c'est sûr, à cause des échecs qu'on peut avoir, hein. Décès, abandon, échecs de toutes sortes, échecs scolaires, professionnels, sentimentaux, toutes sortes de déceptions. On en vit, hein. Pas mal dans la vie, hein. Il faut vivre un temps de deuil, mais après ce temps de deuil, Dieu guérit, Dieu restaure et il ouvre des portes. Dieu, en fait, dans l'ombre, pendant que Samuel pleurait, Dieu avait déjà préparé un jeune garçon. Depuis des années, il avait préparé. Parce que David, il n'est pas sorti d'un chapeau, hein. Il était préparé depuis un bon bout de temps, nous on le sait. Samuel, il ne le savait pas, mais nous on le sait. C'est que pendant que Samuel commençait à se battre avec Saül là, pour lui dire « Allez, allez, repends-toi », Dieu, il avait compris et il avait déjà préparé le prochain roi. Il lui avait appris à se battre contre les ours, il lui avait appris à garder ses moutons fidèlement, il lui avait appris à se soumettre, il lui avait appris à marcher dans la droiture, il lui avait appris à chanter, il pense à tout, hein. Il lui avait appris à composer des psaumes, il lui avait appris à jouer de la musique, il lui avait appris plein de choses à ce futur roi, il l'avait déjà préparé. Vous savez, normalement, dans les cours royales, les princes, on le voit avec Moïse d'ailleurs, hein, à la cour d'Égypte, ils apprennent plein de choses. On leur apprend à bien parler, à bien se présenter, on leur apprend à être fidèle, être ceci, toutes sortes de, développer toutes sortes de qualités, on leur apprend à se battre aussi. C'est pour ça que Moïse a été aussi efficace, il s'est battu avec le contremaître. Et Dieu avait déjà préparé dans l'ombre un roi selon le cœur de Dieu. Vous vous rappelez, on avait vu la même chose quand Samuel, petit jeune homme, était dans le temple et qu'il voyait les fils d'Élie qui étaient des catastrophes ambulantes. Il se dit, oh là là. Eh bien, Dieu était en train de préparer Samuel, tout simplement. Il se rendait pas compte, Samuel. Il fermait soigneusement ses portes, il allumait ses lampes, il les éteignait le soir. Voilà. Il était préparé. Donc, quand Dieu nous fait vivre des choses difficiles dans le passé, on en a vécu, il prépare en même temps le moyen d'en sortir. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Pendant que les fils d'Élie faisaient les andouilles, il préparait Samuel. Et pendant que Saül accumulait les désobéissances, il avait déjà préparé David. Parce que David, il n'est pas sorti comme ça tout frais. Hein. Il y a eu un temps de mûrissement avec ses moutons dehors, là. Pourquoi ? Parce que Dieu a pour nous des plans de bonheur et non de malheur. Il a un avenir et une espérance. Je me souviens, il y a très longtemps, quand l'Église vivait des choses difficiles, j'avais fait un message sur l'espérance. L'autre fois, je voulais le retrouver, je ne l'ai pas encore retrouvé, j'espère que je vais le retrouver. Mais j'avais trop aimé. Au moment où on n'avait plus d'espérance, où les choses allaient vraiment mal pour nous et pour l'Église, ce message sur l'espérance m'avait fait tellement de bien, moi aussi. J'avais regardé dans la Bible toutes les fois où il parlait d'espérance. C'était pas compliqué. Ça prend du temps, mais ça fait du bien. Oui, le Seigneur a pour nous un avenir et une espérance. Et il y avait encore un avenir et une espérance pour Israël. Et même pour Samuel, malgré son âge avancé, il devait être plutôt vieux là. Hein. Il avait encore un avenir et une espérance. Alors ça, c'est difficile à croire. Hein. Je comprends aussi qu'il pleurait, parce qu'il devait se dire oh, « je vais mourir d'un moment à l'autre ». Puis tout ce que j'aurais vu, c'est un roi qui est choisi par Dieu et qui se casse la figure. Bon, Élie, c'était déjà le cas avec ses fils. Élie, il est mort après la bataille. Ses fils sont morts à la bataille. Enfin, on accumule les échecs, quoi. Il y avait de quoi voir tout en noir, hein, moi, je trouve. Bon. Mais quand on souffre, c'est pas facile d'arrêter de pleurer. Comme petit enfant à qui on vient de donner une correction. Et peut-être il y a dans nos vies ce matin un passé qui pèse et sur lequel on pleure encore. Qui bloque toute nouvelle action, qui bloque toute espérance, tout nouveau projet. Parfois on se dit, mais pourquoi il y a des gens, ils n'arrivent pas à voir devant, à faire des projets. Bah oui, parce qu'il y a des blocages douloureux. Et parfois on n'en est même pas conscient, et là c'est plus embêtant. Parfois on sait ce qui nous bloque, parfois on n'en est pas conscient. Et ça devient un blocage dans notre vie spirituelle, dans notre vie émotionnelle ou professionnelle. Donc, si vous sentez des blocages, demandez au Seigneur de vous éclairer. Surtout, ne faites pas d'introspection, mais le Seigneur est bien capable de vous éclairer. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où je pleure encore sur un souci, sur quelque chose qui m'est arrivé ? Parce que c'est vrai que ça crée des blocages, spirituellement, émotionnellement et professionnellement parfois aussi. Alors le Seigneur nous demande ce matin, jusqu'à quand pleuras-tu à ce sujet ? Qu'est-ce qui t'a fait tant de mal ? Souhaites-tu le cultiver encore longtemps ? Moi, je l'ai rejeté. Ça s'applique là. Pas pour les personnes, mais pour les problèmes. Moi, je l'ai rejeté. Et j'ai pensé à ce verset d'Hébreux 12, 1 qui dit « Rejetons toute entrave, j'aime bien cette traduction, et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Chaque fois que je fais du jardinage, je ne sais pas pourquoi, mais je pense à ce verset biblique. Je ne suis pas si spirituelle que ça, vous ne faites pas peur, mais je ne sais pas pourquoi ce verset m'a... Chaque fois que je fais du jardinage et que j'enlève des ronces, ou des lianes, ou du lierre, je ne peux pas m'empêcher parce que chaque fois que je tire dessus, il y a le truc qui s'enroule autour de votre bras, et puis les ronces, ça fait mal. Le médecin m'a demandé l'autre jour, qu'est-ce que vous avez là ? J'ai dit, c'est les ronces. Bon, ça vous déchire la peau, là. Et c'est vraiment ça, les entraves, le péché qui vous enveloppe si facilement. À peine on vient pour l'arracher, il s'entoure autour de votre bras, il griffe. C'est vraiment ça. Donc je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Et j'ai bien aimé la traduction toute entrave, au lieu de. Je crois que c'est fardeau dans la seconde. Toute entrave. Vous savez, l'entrave, c'est quelque chose qu'on met aux prisonniers pour les empêcher de marcher trop vite. Pour pas qu'ils se sauvent, évidemment. Donc, ils sont obligés de faire des petits pas comme ça. Et c'est clair, rejetons toute entrave. Et pleurer sur un problème, c'est une entrave. C'est quelque chose qui vous fait marcher comme ça. C'est dommage quand même. Quelque chose qui nous empêche de bien marcher. Donc il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour porter le deuil. Mais il y a aussi un temps pour revenir au Seigneur, pour la guérison, pour la consolation, pour la restauration, parce qu'il a un avenir et une espérance pour nous. Effectivement, Dieu avait une nouvelle mission pour Samuel. Je crois que c'est peut-être sa dernière grande mission. Remplis ta corne d'huile et va, car j'ai vu mon roi parmi les fils de Jessé. Alors la corne, c'était un récipient en fait. Les gens s'en servaient comme récipient. Ils n'avaient pas les verres en plastique, ni les gourdes en plastique, etc. Et pour des choses un peu précieuses, ils mettaient dans des cornes de bœuf ou je ne sais quoi. Et c'était pratique, ils fabriquaient un petit couvercle et voilà, ils pouvaient transporter l'huile d'onction, les parfums, ce qu'ils avaient à transporter. Corne est peut-être aussi un symbole de force. Samuel était prêt à obéir, mais pour l'instant, il voit le passé récent avec Saül et naturellement, très naturellement, quand Dieu lui dit va, à quoi il pense ? Les obstacles. Vous savez, parfois, quand Dieu nous sort comme ça d'une situation, il nous dit allez, va, avance. Oui, mais ! Oui, mais, parce qu'on est encore plongé dans le passé récent. Comment est-ce que j'irai ? En gros, c'était, tu sais que je suis connue, je suis célèbre, je suis craint par le peuple. Quand je vais quelque part, tout le monde se demande pourquoi. Saül n'est pas trop content de moi en ce moment. S'il apprend que je vais oindre un nouveau roi, ben je suis mort. Donc Seigneur, c'est bien, t'es bien gentil, mais déjà je suis dans le chagrin, je suis dans le deuil, mais là tu m'envoies... À la catastrophe. Et là, encore une fois, j'aime la réponse de Dieu. On ne peut pas dire que la Bible, c'est un conte de fées. Hein. C'est trop beau. Ce n'est pas un homme qui aurait pu penser ça. Qu'est-ce que dit le Seigneur ? Il ne le gronde pas, déjà. Il dit, mais Samuel, tu es un grand homme. Tu manques de foi, mon frère. Non. Dieu ne le gronde pas. Il sait qu'il sort d'un deuil terrible, qu'il est découragé. Et Dieu n'a aucune intention de le casser avec une nouvelle mission. Ça me plaît, ça. Il comprend que le danger est réel. Il lui dit pas, mais qu'est-ce que tu imagines ? Je suis avec toi, tu n'as rien à craindre. Oh non, il sait très bien que c'est vrai ce qu'il a dit. Il comprend que le danger est réel. Mais il a un plan. Et chaque fois que le Seigneur nous envoie dans quelque chose de nouveau, des projets, des choses comme ça, si ça vient vraiment de Dieu, il a un plan. Parfois, on est surpris par ses plans. Mais en général, ils sont chouettes. Hein. Et parfois, nous, on se demande comment faire. Mais je dis toujours, je ne sais pas d'où ça sort, ça d'ailleurs, mais Dieu donne ce qu'il ordonne. Il a un plan, il a une stratégie, et il ne nous laisse pas seuls face à ce genre de difficultés. Et son plan, là, est même très astucieux. Il était, comme je vous ai dit, courant que les prophètes aillent faire des sacrifices à droite à gauche, hein, puisqu'il n'y avait pas encore un temple centralisé. C'est Salomon qui va le construire, donc on n'y est pas encore. Hein. Donc ça lui permettra d'inviter toute une famille et de oindre un des fils sans attirer l'attention de Saül. Ceci étant, vous remarquerez qu'il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas de mensonge sanctifié. Non, parfois, dans certaines religions, on dit, bah oui, on peut mentir pour arranger les choses, pour sauver des situations. Je sais que c'est un gros problème éthique, mais en tout cas, quand même, hein, Dieu n'est pas du tout l'avocat du mensonge. Simplement, il dit, bah, tu vas offrir un sacrifice comme tu as l'habitude de faire, quoi. Et Samuel obéit. Bah, il a du courage, Samuel. Hein. Il obéit. Par contre, la réaction était évidente. Dès qu'il arrive à Bethléem, les anciens de la ville ne sont pas du tout rassurés. Ils n'aimaient pas trop voir le prophète arriver. C'est pas qu'ils ne l'aimaient pas. Ils l'aimaient bien, Samuel. Ils avaient beaucoup de respect pour lui. Ils disaient, oh là là, qu'est-ce que Dieu a encore à nous reprocher? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Et du coup, il lui demande, d'après une traduction, c'est « Viens-tu pour la paix ?» Tu viens pour la paix ou tu viens nous corriger ? Et bien sûr, il les rassure. Il dit « Non, non, ne vous inquiétez pas, je viens pour offrir un sacrifice au Seigneur. » Alors, on retrouve parfois cette peur de la parole de Dieu. Hein. Comme les Israélites devant la montagne de Dieu qui ont préféré qu'il y ait des prêtres qui s'occupent de ça parce que faire face à Dieu, c'est dur. Mais il ne faut pas oublier que nous, on est sous la nouvelle alliance. Hein. L'amour parfait ou l'amour accompli bannit la crainte. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Ils portaient la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a un seul intermédiaire. Ça, chez les protestants, c'est quelque chose de très clair. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Les hommes et les femmes qui aujourd'hui sont appelés à prophétiser n'ont pas du tout le même ministère qu'avaient Samuel, Ésaïe, Ézéchiel ou autre, ou Jérémie. La Bible dit même ceci, et là j'y tiens parce que c'est important. Hein, quand on reçoit nos frères et sœurs qui ont un don de prophétie, il faut toujours se rappeler de ça. Même notre brave Marc Brisebois avec lequel on est amis depuis 98, mais quand même, je lui en ai parlé d'ailleurs, 1 Thessaloniciens 5, 20-21 doit rester vraiment présent dans nos cœurs. Ne méprisez pas les paroles des prophètes. Okay ? Examinez tout. Et la traduction exacte, c'est tester. Et retenez ce qui est bien. Ça veut dire que les prophètes n'ont pas la science infuse, ce n'est pas les prophètes de l'Ancien Testament pour qui la parole qu'ils donnaient venait droit de Dieu. Aujourd'hui, les prophètes ont un taux de justesse et un taux d'erreur. Parce qu'ils sont humains, il n'y a que Jésus qui est à 100%. Donc, ce n'est pas une raison pour les mépriser, ça c'est clair. Ne méprisez pas les messages des prophètes, mais examinez, testez et retenez ce qui est bien. Toujours que ça corresponde à la parole de Dieu, il faut qu'il y ait un écho dans notre cœur. Examinez, hein, ça c'est important. Gardons toujours ça à l'esprit parce que moi j'ai connu des gens qui ont eu des vies brisées par des prophéties qui ne venaient pas de Dieu. Donc attention, soyons prudents. On ne bâtit pas toute une vie sur une prophétie. Il faut qu'il y ait cet examen, ce test. Et souvent, c'est des choses que le Seigneur nous a déjà dites. Quelquefois, des frères et sœurs ont déjà dit. Voilà. Attention, soyons vraiment sages et ne méprisons pas non plus. Donc voilà, on fuit les excès. On ne méprise pas, mais on examine. Verset 5, donc il dit, on va consacrer, consacrez-vous, venez avec moi au sacrifice. Il consacra Jessé et ses fils. Donc consacrer, ils se purifiaient, ils se lavaient, ils changeaient leurs vêtements. Enfin, c'était assez technique, hein, c'était simple. Et peut-être ils mettaient un petit moment à part pour Dieu, je ne sais pas exactement, mais il y avait cette notion de purification. Alors, lorsqu'ils arrivèrent, pauvre Samuel, il était vraiment humain, ça fait plaisir. Hein, comme dit la Bible, des gens comme nous. Il se dit, en voyant Eliab, donc le fils aîné de Jessé, à coup sûr, le Seigneur a devant lui l'homme de son onction. Waouh ! Mais le Seigneur dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa haute taille. C'était déjà le cas la fois dernière. Car je l'ai rejeté. Oh mince, pas lui aussi. Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. Alors ça, c'est ma traduction. L'homme voit ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur voit au cœur. Alors ça, c'est un de mes versets préférés. Je le serine tout le temps à mes élèves. Toutes mes classes le savent par cœur. Et les cinquièmes, ils aiment beaucoup ça. Parce que vous savez, à cet âge-là, on n'aime pas l'hypocrisie. Et on fait attention aux apparences parfois. Donc, ils sont quelquefois plus sages en cinquième. Et je leur fais apprendre ça par cœur, parce que pour qu'ils se rappellent que Dieu ne regarde pas à leur apparence, mais regarde à leur cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ça, c'est la traduction second. Ah ! Il ne s'agit pas de ce que l'homme voit. Dieu ne voit pas toujours les choses et les gens et les circonstances comme nous. Parfois, ça nous embête. Mais Ésaïe 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Bon, au moins c'est au-dessus. Parce que déjà que ce ne soit pas les mêmes, ça nous embête, mais on est rassurés, c'est au-dessus, c'est mieux. Et puis en fait, on s'aperçoit un petit peu plus tard qu'Éliab est quelqu'un de méprisant. Il méprise le petit frère David. Il est incapable de voir ce qu'il y a dans le cœur de David. On va lire d'ailleurs, chapitre 17, versets 28-30. C'est très intéressant parce que Dieu, lui, le voyait, mais vous savez, Samuel, il ne s'en était pas rendu compte, tout prophète qu'il était. Heureusement qu'il a écouté le Seigneur. Donc, c'est, j'ai dit, 17, 28, 30. Quand David arrive pour ce fameux combat avec Goliath, Éliab, son frère aîné, ah tiens, encore lui, qui l'avait entendu parler aux hommes, se mit en colère contre David. « Pourquoi es-tu descendu ? À qui as-tu laissé ce petit troupeau dans le désert ? Je connais bien, moi, ton arrogance et ton corps mauvais. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » Wow, sympa Éliab pour le petit frère, hein ? Il lui attribue tous les mauvais sentiments possibles. Il est accusateur, orgueilleux, méprisant et colérique. Ils auraient été bien avec un roi comme ça. Juger sur l'apparence. Alors dans tous les pays, je voulais demander à Julie ce matin, j'ai oublié, dans tous les pays, on a toutes sortes de dictons à ce sujet. Nous en France, on a l'habit ne fait pas le moine. Je n'ai pas réussi à me rappeler celui qu'on utilise en Angleterre, c'est pas très grave. L'habit ne fait pas le moine. On le sait, mais on continue à faire attention à l'apparence. Mais l'apparence, attention, c'est pas seulement l'apparence extérieure physique. Présentation, attitude, prestance, vêtements, ok. Mais c'est aussi la position sociale. C'est aussi le niveau d'études. C'est aussi et surtout en France, le bagou. Alors c'est quoi en anglais ? Ah, tout ce qui ne brille n'est pas or. Oui, c'est vrai aussi. C'est le bagou. Connaissez le bagou ? En malgache, c'est pareil, tout ce qui brille n'est pas or. Mais je crois qu'il y en a encore d'autres, mais bon. Ah oui, voilà, c'est celui-là que je cherchais. Il ne faut pas juger un livre d'après la couverture. Très bien, merci. Oui. Je cherchais, mais ça ne me revenait pas. Donc en France, on est très sensible, parce qu'on est des gens assez discoureurs, on est très sensible au bagou, à la façon dont les gens s'expriment. Ce qui frappe, ce qui fait impression. Et attention aussi, parce que parfois, les impressions peuvent être bonnes, mais la réalité moins bonne. Par exemple, moi, j'ai regardé un peu dans les expériences de vie, quelqu'un de, par exemple, très réservé, très souriant, qui a l'air très discret, mais qui, en fait, a une langue de vipère, pas possible. Quelqu'un d'extraverti, qui a l'air très plaisantin, très bavard, très léger, puis qui, en fait, quand on le connaît, est très sage, très profond, et vraiment à l'écoute de Dieu. Ah, on peut se tromper lourdement, hein. La douceur peut cacher une volonté d'acier. Ça, j'ai vu souvent. Des gens d'une grande douceur, mais oh là là, une volonté d'acier. Il y a le bon côté, mais il y a le mauvais aussi. Un tempérament, par exemple, très carré, apparemment, qui peut cacher un cœur très souple devant le Seigneur. Vous voyez, attention, on ne peut pas juger aux apparences. C'est pourquoi Jésus insiste, et là, c'est très important, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 20. C'est à leurs fruits. Et attention, c'est quoi les fruits ? Je me souviens m'être un peu prise de bec avec un ou deux pasteurs là-dessus. Parce que pour eux, les fruits, c'était le nombre de gens que j'amenais au Seigneur. Ah, bah moi, je n'ai pas lu ça dans la Bible. J'ai lu dans Galates, Galates 5, 20, 23, un autre genre de fruits. Parce que moi, je connais des gens qui ont amené des gens au Seigneur et eux-mêmes ne sont pas convertis. Hein. C'est pas... Voilà. Si, c'est vrai. Alors, si vous êtes conduit par l'esprit, première leçon du TQP, vous n'êtes plus sous la loi. Les œuvres de la chair sont manifestes, inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. C'est pas drôle. Quant aux fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Oh, oh. On les a tous, hein. Pas de soucis. Par la foi. Bon. Mais ces fruits-là, c'est quand même important. Et trop souvent, dans nos milieux charismatiques surtout, on pense beaucoup aux dons. Mais les dons, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Un don, c'est un cadeau. Si je vous offre un diamant, c'est parce que je vous ai offert un diamant, c'est tout. Oui, je sais. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous avez toutes sortes de qualités. Ça, c'est un don. Ça n'a rien à voir avec vous. Par contre, les fruits... Ben, les fruits, il faut que ça pousse et ça prend du temps. Et ça demande de la pluie, du soleil, des soins, un peu d'insecticide. Il ne faut pas trop le dire, les écolos vont pas être contents. Mais voilà, ça demande des soins. Et c'est quelque chose qu'on produit tranquillement, lentement. Parce qu'un fruit qui a poussé trop vite, pas très bon, hein. Voilà, c'est quelque chose que la personne va produire dans son environnement. Donc, juger par les fruits. Non pas dans l'esprit de juger, attention, hein, mais d'examiner. Regarder leurs fruits. Et souvent, moi, ce que je regarde, c'est comment les gens font face. Parce qu'attention, il y a aussi des gens qui pensent que les fruits, c'est tout roule. Tout va bien pour eux. Donc ça vraiment, hein. Alors là c'est la théologie de la prospérité, hein. Ils sont riches, ils sont beaux, ils réussissent dans leurs affaires, donc ils ont la bénédiction de Dieu. Non, ça c'est pas des fruits, ça. C'est une grâce de Dieu, ok, mais c'est pas des fruits. Donc les fruits, c'est vraiment ce que la personne va produire dans son environnement, et particulièrement face aux difficultés. C'est pour ça que souvent quand j'étudie un personnage de la Bible, je regarde comment il réagit. Vous avez remarqué. Je regarde comment il aurait pu réagir ou comment moi j'aurais réagi à sa place. Pas toujours bien d'ailleurs. Par exemple, vous avez eu Saül, face à la difficulté, c'est pas ma faute, c'est l'autre. On voit tout de suite le fruit, hein. Quels fruits sont produits dans les relations avec les autres, à l'école, au travail, dans la famille ou avec les amis? Quels fruits les gens produisent? Est-ce que c'est la miséricorde, la compassion, la patience, le pardon? Ou est-ce que c'est l'accusation? Le mépris, la rancune, je pourrais en trouver d'autres. Hein. Et même si les gens changent de lieu, les fruits demeurent toujours le même. Alors, je pensais à cette petite histoire, j'espère que je la raconte bien, mais c'est dans un train, un vieux monsieur qui avait l'air très, très respectable, puis il y avait deux plus jeunes qui essayaient de lui parler, et puis finalement il y en a un qui dit, mais attendez monsieur, dans la petite ville où on va là, c'est là que vous habitez?
Oui.
Vous habitez depuis longtemps? Je suis né là. Ah, ben moi je vais emménager là. Comment ils sont les gens dans cette petite ville? Le vieux monsieur dit, ah, comment ils étaient là où vous étiez avant? Oh, ils étaient méchants, ils étaient durs, ils étaient disputeurs, ils étaient casse-pieds, ils étaient... Ah ben écoutez, ce sera à peu près la même chose dans la nouvelle ville. Et puis au bout d'un certain temps de voyage, il y en a un autre jeune qui vient le voir et qui lui dit, vous habitez, nanana, oui. Comment ils sont les gens dans cette petite ville? Ah, ben écoutez, comment ils étaient là où vous étiez avant? Oh, ben, il y avait un peu de tout, qui était agréable, d'autres... mais globalement quand même, ils étaient gentils, ils étaient serviables, on arrivait à les connaître, à sympathiser avec eux. Eh ben, ça sera exactement la même chose. Ça parle. C'est pareil quand on se marie d'ailleurs. On dit toujours aux jeunes, prenez-en de la graine, regardez comment l'autre traite ses parents et sa famille. Et vous aurez une idée de ce que vous allez vivre. Et c'est vrai. Avec toutes ces années, je considère que c'est vrai. Et je pense à... J'espère qu'elle n'écoute pas, ma cousine. Mon cousin s'est marié avec une fille géniale. Et elle avait une mère épouvantable. Vraiment dure et épouvantable. Très gentille socialement, mais oh là là, en tant que maman, c'était... Oh. Je me souviens, à 18 ans, quand elle est rentrée dans la famille, elle a raconté tout à ma mère. Ma mère avait toujours les confessions de tout le monde. Et elle a pleuré, elle souffrait, cette fille. Et elle a toujours bien traité sa maman, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Avec patience, avec gentillesse. Et parfois, elle me racontait, je me souviens quand j'étais allée il y a quelques années, elle avait même demandé la prière, j'étais très contente, parce qu'elle dit, j'en peux plus. Elle était méchante, cette femme. Elle avait, je sais pas, il y avait quelque chose qui tournait pas rond, visiblement. Il y a eu quelque chose. Elle a pleuré sur son Saül, elle aussi, peut-être toute sa vie, je sais pas. Mais jusqu'au bout, elle s'est occupée de sa maman. Et elle a fait vraiment tout ce qu'elle devait. Eh ben, comment elle traite mon cousin? Et comment elle nous traite, nous, les cousins, les membres de la famille, avec la même gentillesse? Et c'est un modèle. Pourtant, bon, elle a la foi. Hein. Peut-être pas engagée comme nous, mais elle a la foi, elle prie. Et c'est vrai que quand je regarde comment elle a fait, elle a agi exactement pareil. Et mon cousin a toujours été facile, mais elle a tout fait pour que son couple fonctionne, pour que, voilà. Et je prends un exemple de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Enfin, comme tout, qui aime le Seigneur. Donc, c'est vrai. Comme on traite sa famille, comme on va traiter son conjoint. Et si on a vécu dans le mépris, dans les fâcheries, dans les disputes, dans l'indifférence, eh ben on va forcément, un jour ou l'autre, faire la même chose avec la nouvelle famille. Donc, à bon entendeur, salut. On peut se repentir, voilà, heureusement. Est-ce que tu t'es repenti, j'espère? Non, c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'ai fait attention quand je me suis fiancée. Et il était gentil avec ses parents. Il a supporté la dureté de son père. C'est pour ça qu'il supporte la mienne aussi. Voilà. Donc Jésus nous invite à considérer les fruits, ce que les gens vont produire autour d'eux. La paix ou le conflit, l'amour ou la critique, l'humilité ou la revendication. Vous voyez, c'est ça les fruits. Qu'est-ce qu'on va produire dans son environnement? Il dit de considérer les fruits, non pas pour juger ou condamner, attention, mais pour les reconnaître. J'aime bien le mot, reconnaître. Reconnaître. C'est aussi, on peut prier pour eux, effectivement, ils peuvent se repentir et on peut les aider. Donc l'idée n'est pas de condamner. Quand on dit, oh, je vais regarder les fruits de cette personne, qu'est-ce qu'elle produit? Non. Et si on constate que les fruits ne vont pas, ils sont mauvais, on prie, on aide, on invite les gens à faire le TQP. Voilà. Voilà. Non, mais on a tous besoin d'améliorer nos fruits, donc ce n'est pas un souci. Mais voilà, l'idée de considérer les fruits, quand Jésus dit ça, ce n'est pas pour nous inviter au jugement. Hein. Attention. Hein. Alors, pour ce qui est de l'apparence, ben, je pense aussi aux hommes politiques, tous, d'un bout à l'autre. Ils travaillent avec des coachs. Ils travaillent leur sourire. Ils travaillent leur poignée de main, comment prendre les enfants dans les bras, dans la foule, tout leur langage corporel, leur discours. Et j'ai lu un livre tordant, j'ai essayé de le mettre en pratique, mais ça demande une telle concentration que ça, c'est beaucoup me demander, où quelqu'un, un psychologue, étudie le langage corporel des hommes politiques pour pouvoir voir quand ils mentent. Et ça marche très bien. Alors je l'ai fait une ou deux fois, c'est vrai que ça marche bien, mais c'est très fatigant, ça demande une concentration. Il montre que certains gestes contredisent les paroles. Voilà, c'est l'objet du livre. Très drôle. Et c'est assez efficace, je dois dire. Mais ça demande une bonne concentration, ça me fatigue. Bon. Mais c'est vrai que ça marche. Je l'ai fait plusieurs fois. Et vous allez voir les gens qui vont vous dire quelque chose, mais les gestes disent exactement le contraire. Voilà. Donc, ces hommes politiques en question, ils travaillent leur langage corporel pour s'arranger à ce que ça corresponde avec ce qu'ils disent. Mais ça finit par se voir. Voilà. Donc vous voyez comme quoi l'apparence peut être trompeuse, très trompeuse. Mais nous, on sait qui on est enfant de Dieu, on est ambassadeur de Christ, ambassadeur d'un royaume, le royaume de Dieu. Donc on doit produire des fruits par l'Esprit qui habite en nous, des fruits qui rendent gloire à notre roi. Matthieu 5, 16, qu'il voit vos bonnes œuvres et, c'est pas juste pour les voir, hein, qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Leçon 1 du TQP. Si vous ne l'avez pas fait, c'est l'occasion. Je suis encore dedans, j'aime beaucoup. Verset 11. Puis Samuel dit à Jessé, donc on va revenir à notre texte en vitesse pour terminer. Samuel dit à Jessé. Ah oui, le Seigneur. Donc Éliab, ça n'a pas marché. Jessé fait passer Abinadab. Samuel dit, le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-là. Puis Shama, le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-là. Jessé fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Heureusement qu'il y en avait beaucoup. Samuel dit à Jessé, le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. Alors là, ça m'a intéressée, parce que c'est surprenant pour Samuel que Dieu dise non à chaque fils. Il lui a bien dit, c'était un fils de Jessé. Ils sont tous là. Mais alors là, j'admire Samuel. Vous savez ce que moi, j'aurais dit ? Eh ben, tu t'es trompé, Seigneur. Ou bien, j'ai pas entendu correctement ce que tu m'as dit. Mais Samuel, alors là, il est génial. Il va pas soupçonner une seconde que Dieu s'est trompé. Mais il va poser tout de suite la bonne question. Alors là, moi, je l'admire. Il dit, il n'y en a pas encore un autre ? Ben oui, il était sûr que Dieu avait dit vrai. Quelle confiance ! Quelle confiance ! Confiance dans son oreille aussi, hein ? Il avait bien entendu le Seigneur. L'erreur ne pouvait pas être du côté de Dieu. Dieu avait bien dit, j'ai vu mon roi parmi ses fils. Il a confiance, il ne va pas douter. Il est sûr que ce sera le bon. Et il ne veut pas s'installer à table, vous avez vu ? Il ne veut pas s'installer à table tant que l'onction n'a pas été donnée. Et il dit, envoie quelqu'un le chercher. Donc oui, il dit, il reste le plus petit, mais il fait paître le troupeau. Alors, historiquement, à l'époque, les bergers, c'était les plus petits des plus petits. C'était les gens qui ne savaient pas faire quoi que ce soit d'autre. C'est ceux qu'on mettait de côté. Ils sentaient mauvais, ils sentaient le mouton. Ça sent, hein ? J'ai visité les bergeries et je me souviens de tous les gamins avec une classe de CM2 qui caressaient les moutons quand on rentrait. Terrible. Donc voilà, on les méprisait ces gens-là. On les méprisait. Il fait paître le troupeau. Alors Samuel dit, envoie quelqu'un le chercher car nous ne nous installerons pas avant qu'il soit arrivé ici. Et il va le chercher. Donc, il avait le foi, il avait la confiance en Dieu. Et puis, David va lui donner l'onction et la Bible insiste devant ses frères. Ça ne devait pas être très facile à prendre pour les frangins, je trouve, hein. Surtout le grand, qui avait senti que ça allait presque marcher. Ouh. Samuel, oui, va donner l'onction. Le petit, le méprisé, celui qui sent mauvais, celui qui est mis de côté, c'est lui qui va recevoir l'onction qui a été refusée au plus grand et au plus fort. Ça, c'est « les premiers seront les derniers ». Sagesse du monde, folie de Dieu, on connaît tous ces versets. Alors, on pense que David et Jessé savaient de quoi il s'agissait, mais apparemment pas les autres. Parce qu'ils pouvaient donner l'onction, j'ai regardé, hein, pour n'importe quelle raison, hein, pour être un prophète, pour lui succéder lui, enfin, c'était pas trop précis, ce qui fait que c'est passé comme ça. Par contre, il semblerait que Jessé et David savaient que c'était une onction royale. Et la Bible dit quelque chose de très important, c'est pas l'onction qui fait tout. À partir de ce jour-là, le souffle du Seigneur s'empara de David. C'est ça qui va faire la différence. C'est pas le geste rituel. C'est que l'Esprit du Seigneur descend sur David et la mission de Samuel est accomplie. Il retourne chez lui à Rama. Certainement, il est encouragé, il est consolé. Le pauvre Samuel, on va entendre parler de lui encore une fois. C'est quand Saül veut tuer David et David va se réfugier chez qui ? À Rama, chez Samuel. Je ne sais pas comment il a vécu ça, la Bible ne dit pas. Il ne faut peut-être mieux pas qu'on sache, ça devait être dur pour lui. Chapitre 38, on apprend qu'il est mort. Et que tout Israël était dans le deuil et qu'il a été enterré dans sa ville de Rama. Et on ne parle plus de Samuel. Il a été fidèle jusqu'au bout, malgré sa souffrance par rapport à Saül. Ça a été une vie très longue, hein, consacrée à Dieu. Il a vécu des grosses déceptions, des chagrins. Mais je pense qu'il est parti en sachant que David serait le modèle de roi que Dieu avait prévu. Et il a eu l'honneur quand même de lui donner l'onction. Il a protégé David au péril de sa vie, quand il va venir se cacher chez lui, quand Saül va vouloir le tuer. Et il est visiblement parti en sachant que David serait un bon roi, parce qu'il savait se repentir. Pas parce qu'il était meilleur que Saül, parce qu'il savait demander pardon. Et Samuel, on peut dire, c'est le récit d'une vie bien remplie, au service de Dieu, mais ce que j'aime bien chez lui, c'est un humain comme tout. Donc c'est un bon modèle, pas forcément très facile à suivre, mais c'est un bon modèle pour nous.